les podcasts de Radio Vatican.
Quelle perspective pour l'action diplomatique européenne sur les questions religieuses et de conviction ? En juin 2013, l'Union européenne a adopté ses premières lignes directrices pour aider ses fonctionnaires et diplomates à protéger le droit de croire ou de ne pas croire dans le monde. Près de 4 ans plus tard, la Commission des épiscopats de la Communauté européenne, la COMECE, organise ce mercredi 26 avril 2017 une conférence sur le sujet en collaboration avec le Parti populaire européen. Ces lignes directrices ont-elles été mises en œuvre ? Comment les améliorer ? Nous avons posé la question au frère Olivier Poquillon, secrétaire général de la COMECE.
Ces lignes directrices devaient être réévaluées il y a déjà 1 an. Nous espérons que cette attente n'était pas le signe d'un désintérêt, mais plutôt d'une certaine perplexité. On voit que nos sociétés et les acteurs politiques, donc au niveau européen comme au niveau national ou international, ont un peu de mal avec cette question religieuse. Aujourd'hui, c'est quand même un outil positif, même s'il reste sans doute des défis à relever. Le premier défi, il n'est pas certain que les destinataires des lignes directrices les connaissent leur existence et donc puissent les mettre en œuvre. Le deuxième point, c'est que il faut une volonté politique pour les missions diplomatiques de l'Union. Et le troisième point, il faut que ça se traduise aussi dans des actions. L'Union n'est pas un think tank, n'est pas un conclave d'experts, c'est un acteur politique. Donc on attend là aussi d'avoir des résultats concrets sur le terrain.
Et c'est-à-dire que par exemple dans des cas très concrets, on pense par exemple aux chrétiens d'Orient ou alors on pense aux répression contre les minorités religieuses en Asie du Sud, ces lignes directrices pourraient permettre d'avoir une voix plus unifiée de l'Europe, mais pour l'instant, elles ne sont pas encore vraiment utilisées.
Ces directives sont destinées d'abord au personnel de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'elles sont un peu comme des recettes de cuisine. Encore faut-il qu'on choisisse de les utiliser. Elles expliquent comment procéder et quelles sont les règles à mettre en œuvre, c'est-à-dire qu'elles attirent l'attention, par exemple, sur des mécanismes de surveillance, des rapports à élaborer, l'articulation entre la liberté d'expression, la liberté de religion, etc. Pour les chrétiens d'Orient, c'est essentiellement le Parlement qui s'est saisi de l'affaire. Le Parlement européen est donc bel et bien à l'écoute des préoccupations des citoyens et a mis en place un intergroupe parlementaire, donc avec des parlementaires de différents courants politiques et qui, ensemble, ont proposé au Parlement, dans son ensemble, de voter un certain nombre de résolutions fortes sur la protection des chrétiens d'Orient, des minorités, etc. Donc il y a un effet, mais cet effet est davantage lié à l'action du Parlement qu'à celle peut-être de la Commission ou du Service d'Action Extérieure.
Et alors justement, concernant la Commission qui est directement concernée par ces lignes directrices, il y a eu la nomination en mai 2016 d'un envoyé spécial pour la promotion de la liberté de religion et de conviction en dehors de l'Union européenne. Est-ce que ça a changé quelque chose ou est-ce que pour l'instant, on est dans une phase de démarrage, on va dire ?
On est certainement dans une phase de rodage avec ce mécanisme. Les visites effectuées sur le terrain ont une portée symbolique forte, particulièrement pour les communautés qui reçoivent cette visite. La question que nous nous posons concernant le mandat du représentant spécial pour la liberté de religion et de croyance est de savoir comment il peut articuler son action avec celle du service d'action extérieure. Le service d'action extérieure, c'est en fait la diplomatie de l'Union européenne, à ses propres objectifs qui ne sont pas forcément liés à celui du représentant spécial. Ce sont des domaines où les 3 acteurs principaux se retrouvent, l'Union, la Commission, au Parlement et au Conseil. Il nous paraît important qu'il y ait une meilleure intégration de ce nouveau mécanisme qui est plutôt positif dans la politique extérieure de l'Union.
La politique européenne privilégie le dialogue plutôt que les sanctions sur ce sujet, ce qui suscite certaines critiques, notamment concernant son efficacité. Qu'en pensez-vous ?
La diplomatie, c'est un tout, et pour l'Église, la diplomatie, c'est un dialogue. La diplomatie n'est pas la continuation de la guerre par d'autres moyens. On peut avoir un dialogue qui ne soit pas du haut vers le bas, mais qui soit à parité. En tout cas, la conception de l'Église, c'est que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est largement partagé par tous les gens qui acceptent cette règle, ces droits de l'homme, de la personne humaine, créée à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Il ne s'agit donc pas de dire que l'Union européenne aurait une légitimité ou un pouvoir de sanctionner. Une sanction, ça implique un tribunal, ça implique l'acceptation d'une loi commune et supérieure. Et actuellement, ça n'est pas le cas dans des relations bilatérales. On est dans des relations diplomatiques, dans des pressions diplomatiques, mais qui visent des droits fondamentaux. Donc ces droits ne sont pas inalagmatiques. Alors c'est un gros mot pour dire qu'on ne doit pas attendre du pays qui n'applique pas les droits de l'homme qu'il les applique pour pouvoir les appliquer dans notre propre sphère. Lorsque les droits de l'homme sont violés, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union, eh bien il est du devoir des États de faire cesser ces violations. Ce devoir, il passe en matière interne par la loi, par la justice, et pour ce qui concerne les États extérieurs, eh bien cela passe par la négociation, le règlement pacifique des différends.
Et dans ce cadre-là, vous avez évoqué tout à l'heure l'action du Parlement européen, de la Commission. Comment est-ce que la Commission et l'Église sont associées justement à cette politique de défense de la liberté de religion ou de conviction ?
Alors, le traité de Lisbonne prévoit un dialogue ouvert, régulier et transparent entre l'Union européenne et les religions, et les églises et les religions. Ce dialogue concerne essentiellement la vie des communautés religieuses à l'intérieur de l'Union. Mais il nous paraît très important pour nous d'être associés à ce dialogue ad extra, même s'il n'est pas explicitement prévu dans le traité. Pour l'Église catholique, nous ne voyons pas bien comment on peut parler à des catholiques d'un côté sans que ça ait un effet sur les catholiques de l'autre côté de la frontière. Donc nous facilitons ce dialogue et lorsque des évêques du Soudan ou de Syrie, du Pakistan viennent à Bruxelles, nous facilitons leur rencontre avec les différents acteurs de l'Union, que ce soit la Commission, le Conseil ou avant tout le Parlement.
Et est-ce que vous avez le sentiment d'être écouté autant sur ces cas précis que, en général, sur les remarques que vous pouvez faire sur ces lignes directrices ?
Les bons diplomates savent que les acteurs religieux sont des interlocuteurs incontournables pour régler des différends parce qu'ils sont profondément enracinés dans la population. Donc nous avons une écoute, il y a une marge d'amélioration dans l'institutionnalisation de ce dialogue. Pour l'instant, le dialogue repose surtout sur la bonne volonté des uns et des autres et pourrait être davantage formalisé de façon à permettre des échanges réguliers en fonction des besoins du terrain, et des échanges qui ne soient pas seulement liés aux connexions personnelles de tel ou tel ou aux affinités de tel ou tel. Donc actuellement, nous sommes en train de travailler à cette amélioration en lien avec le Parlement, mais aussi la Commission et, c'est plus nouveau, le Conseil. D'autre part, il nous semble important de ne pas limiter les églises dans le dialogue à des questions, on pourrait dire, de sacristie ou de rite, mais à nous permettre aussi d'exprimer des opinions, pour nous les opinions catholiques, eh bien, sur des sujets qui peuvent aller jusqu'à les accords commerciaux entre l'Union européenne et tel pays, ou la liberté d'association, parce que ces différents points peuvent avoir des effets sur la liberté de religion. Je prends un exemple. Si une communauté religieuse n'a pas accès au marché du travail, eh bien, elle va disparaître.
Dès le début, j'ai vu que vous souligniez trois points, entre autres, d'amélioration en demandant le renforcement de la dimension collective de la liberté de religion. J'avais vu également la reconnaissance du droit des parents à éduquer leurs enfants selon leurs propres convictions et puis une approche plus équilibrée du principe de non-discrimination. Est-ce qu'il y a eu des avancées en 4 ans sur ces questions-là ?
Je ne sais pas si on peut parler d'avancées, mais il y a certainement des évolutions dans la perception qu'on peut avoir de ces droits. L'exercice communautaire en commun à plusieurs de la liberté de religion est quelque chose qui ne va pas de soi en Occident, où la religion est considérée comme quelque chose de la sphère privée. Et là, nous avons certainement à dialoguer davantage pour rendre nos partenaires conscients de cette spécificité européenne. Ça n'est pas une vision qui est partagée par la majorité de nos interlocuteurs, qu'ils soient du Sud, mais aussi du Nord. Ça n'est pas la vision américaine, ça n'est pas la vision russe, ça n'est pas la vision non plus qu'on peut retrouver en Asie du Sud-Est ou en Afrique.
Et concernant la question de l'éducation ?
Eh bien, là aussi, nous souhaitons une meilleure prise en compte de l'interdépendance des droits fondamentaux. On ne peut pas traiter un droit sans traiter les autres. Lorsque nous abordons la question de l'éducation par les parents, selon leurs critères, les critères de leur choix, dans le respect de leur liberté, eh bien, on touche là les droits culturels et aussi le droit à l'éducation, qui sont d'autres droits qu'on aborde aux Nations Unies, etc. Là, il serait tout à fait possible pour l'Union européenne d'être un acteur plus présent sur ce débat. De même pour la dimension collective, La dimension collective est aujourd'hui battue en brèche dans un certain nombre de pays d'Asie du Sud-Est ou même d'Europe, de la grande Europe, où cette dimension collective est battue en brèche par l'adoption de réglementations qui limitent la liberté d'association. Et en mettant des règles sur des prétextes, on pourrait dire, de sécurité ou de transparence financière, on entrave sciemment la liberté de culte et la liberté de religion exercée en commun.
Un entretien réalisé par Samuel Blény.